Alors, le message de ce soir portera sur Luc 2, les versets 13, à 14, 13 et 14, mais je vais vous inviter à les lire dans leur contexte. Donc, on va lire à partir du verset 8. Pour si vous voulez suivre, dans les Bibles qui sont sur les bancs devant vous, c'est à la page 1145. Donc, Luc 2, versets 8 à 14, page 1145. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. »
Alors, mardi dernier, nous étions une trentaine, entre 25 et 30 peut-être, à représenter notre église autour du piano de la gare Montparnasse, conduit avec brio par Cécile, ici présente. Puis il y avait Joël, qui n'est pas là par contre ce soir, mais au piano. Et on était plusieurs, et c'était un bon moment. Les passants semblaient apprécier, ils nous ont pas dit le contraire en tout cas. Et j'ose espérer que ces chants que nous avons chantés, et l'espérance communiquée par ces chants, ont au moins un peu interrompu le quotidien, parfois un petit peu tristounet, parfois un peu morne, de nos contemporains. Alors peut-être que nous n'avions pas tout à fait des voix angéliques, je ne sais pas, mais dans un sens, ces chants faisaient écho au chant dont nous venons d'entendre la lecture par Marie il y a un instant, ce chant dont nous parle l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 14 précisément. Et là aussi, c'est un chant qui est venu interrompre le quotidien, alors plus encore, interrompre le quotidien de quelques hommes qui étaient au travail, un peu dans un sens comme ceux qui transitent par la gare Montparnasse. Mais un chant quand même, il faut le dire, plus impressionnant. Et donc c'est sur ce chant des anges que nous allons nous concentrer ce soir. La lecture depuis le verset 8 avait pour but simplement de le remettre, comme l'a dit d'ailleurs Marie, de le remettre dans son contexte. La question que nous allons nous poser en examinant ce texte est la suivante. Que nous dit ce chant de l'espérance apportée par la naissance de Jésus? Que nous dit ce chant de l'espérance apportée par la naissance de Jésus? Et je vous soumets que ce chant nous parle successivement d'une fête dans le ciel et ensuite une espérance pour la terre. Une fête dans le ciel, une espérance pour la terre. On commence donc par une fête dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans cette scène qui nous est décrite ici par Luc? On voit que d'abord, le cadre est bien posé. Verset 8, il nous est dit que des bergers passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Donc, une scène très familière dans le contexte de l'époque. Le métier de berger était très courant dans une société agricole comme l'était la Judée de l'époque. Et donc, on a quelques bergers qui travaillent de nuit, comme c'était souvent le cas pour eux, dans des champs. Mais ce calme nocturne va être brusquement rompu par une scène absolument saisissante. Verset 9, « Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Et on voit un petit peu plus loin en verset 13, « Tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » C'est assez frappant, entre parenthèses, voir la précision dans la manière dont Luc raconte cette histoire. Il y a d'abord un ange, et puis tout d'un coup, il y a une foule d'anges qui se joignent à ce cœur. Alors, si on a souvent entendu l'histoire de Noël, c'est des mots qui résonnent comme étant très habituels. Pour ceux qui, comme moi, ont grandi en allant régulièrement à l'église, et ben, ces paroles, nous les connaissons. Pour d'autres, elles sont peut-être nouvelles. D'autres encore qui... Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi nous ce soir, c'est possible, mais qui ne prennent pas a priori très au sérieux le récit biblique, en tout cas pas ici, pas à la lettre, liront ce récit avec un sourire en coin en disant « Oui, d'accord, bon, des anges qui apparaissent tout d'un coup dans un champ, etc. C'est typique d'une vision, n'est-ce pas, pré-scientifique, non encore éclairée du monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand on lit ce type de récit, c'est que cet événement n'était pas du tout considéré comme normal dans le contexte de l'époque, pas plus qu'aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, les gens de l'époque ne s'attendaient pas plus que nous à voir des anges. Ça, c'est vraiment une vision biaisée de notre temps. On pense que les gens, à l'époque, voyaient le surnaturel partout. Ce n'était pas le cas. Et on voit d'ailleurs que les bergers ne réagissent pas en disant « Oh tiens, des anges !» du tout, mais par une grande frayeur, verset 9. Ils sont terrorisés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais rien vu de tel. Alors, que se passe-t-il maintenant dans cette scène tout à fait extraordinaire ? Une façon de le dire, il me semble, c'est que ici, le monde invisible et spirituel se dévoile l'espace d'un instant. Il y a là une réalité dont la Bible nous parle, qui fait partie de la vision du monde biblique, et une réalité beaucoup plus présente qu'on ne veut le croire en Occident. Ces puissances spirituelles qui sous-tendent les aspirations et les actions des hommes dans le monde. Certaines de ces puissances sont au service du Dieu créateur. D'autres se sont au contraire dressées contre lui. Dans notre culture occidentale, on a un peu du mal avec cette façon de penser, mais on constate sans cesse le mystère du mal qui est autour de nous, le mystère de la malveillance ou de ces choses qui vont toujours dans le sens du mal et de l'échec. On constate en fait le résultat de tout ça, mais c'est vrai qu'on a du mal à établir le diagnostic, alors que la Bible, elle, le fait très clairement. Elle reste sobre, mais elle parle bien régulièrement de cette autre dimension de la vie et du réel, qui de temps en temps se dévoile, se montre, ne serait-ce qu'un instant. Je ne sais pas si vous voyez un peu à quoi ressemble du code informatique. Alors, pour quelques-uns parmi nous, c'est leur pain quotidien, le code informatique, c'est leur boulot de tous les jours. Pour d'autres comme moi, beaucoup moins. Mais ce code, tel qu'il se présente en réalité, on ne le voit pas tel que quand on utilise son ordinateur, quand on est un utilisateur lambda comme moi, qu'on utilise son PC ou son Mac, on ne voit pas ce langage tellement sophistiqué qui se cache en fait derrière toutes les fonctions de notre ordinateur. Et en fait, pour que tout marche comme on aime que ça marche, et comme on est habitué à ce que ça marche, il y a ce langage très complexe qui sous-tend en fait toute la réalité qu'on voit. Mais une fois de temps en temps, ça nous arrive peut-être de voir tout d'un coup quelques commandes à l'écran. Ici, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que la réalité invisible, qui sous-tend la réalité visible, eh bien, se laisse voir quelques instants. Et dans la Bible, les anges forment en quelque sorte la cour royale de Dieu. Ils sont à son service dans cette sphère justement invisible de la réalité. Et ici, c'est comme s'il faisait une incursion de quelques secondes aux yeux des hommes. Alors pourquoi cette incursion ? Eh bien, le texte nous le montre bien, il me semble. Il s'agit de célébrer publiquement l'intervention de Dieu qui est en train de se dérouler. L'histoire que Dieu écrit depuis la nuit des temps connaît ici un tournant absolument majeur. La naissance de cet enfant, Jésus, marque l'accomplissement des promesses de Dieu faites à Abraham, à Moïse, à David, aux prophètes. Cette promesse d'envoyer un sauveur à Israël et même au monde entier pour ramener à lui sa création égarée et en particulier l'humanité qui s'est perdue. Alors la suite de l'évangile de Luc et plus largement le Nouveau Testament vont bien montrer de quelle manière Jésus a accompli toutes ces promesses. Mais en attendant, comment comprendre donc ce chant des anges ? Ce n'est pas très compliqué, en fait. Examinons son contenu au verset 14. Les anges commencent par s'écrier « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Dans certains de nos cantiques, on a gardé la formule en latin « Gloria in excelsis Deo ». Si vous ne saviez pas ce que ça voulait dire, voilà, je vous le révèle. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Une expression de joie et de louange spontanée. Les anges font retentir en quelque sorte une joie qui vient de Dieu lui-même. La joie de voir s'accomplir ses promesses, d'assister à un événement capital. Peut-être qu'on peut avoir une petite idée de cette joie en, en pensant à des grands jours de l'histoire, des grands jours d'espérance ou de joie dans l'histoire. Il n'y en a peut-être pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. On peut penser à la fin du régime de l'apartheid en Afrique du Sud ou la chute du mur de Berlin. Un grand événement qui concrétise une profonde aspiration de tant de personnes. En baissant un petit peu l'échelle, on peut oser l'analogie avec, par exemple, la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde en 1998. Grande joie nationale et populaire et toutes les célébrations spontanées qui ont eu lieu ce soir-là dans la rue. Et bien ici, le ciel fait la fête. Les puissances célestes célèbrent Dieu par un chant qui exprime de la joie. Mais pas seulement, il me semble que ce chant exprime aussi la liberté absolue de Dieu, sa souveraineté sur les événements. Je pense que ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi de se manifester ainsi dans la nuit, ici, pour illuminer les ténèbres. Quelles que soient les détresses de ce monde, ce chant nous dit que Dieu n'est pas menacé par elles, qu'il est puissant, glorieux, et qu'au moment voulu, il se manifeste, il maîtrise toutes choses. Ce qui est particulièrement saisissant, c'est au cœur du mystère de Noël, et on le relève assez souvent, c'est qu'un Dieu tout-puissant ait choisi ce cadre-là, un cadre aussi discret et modeste que ces quelques bergers près de Bethléem, pour manifester sa gloire. Et c'est un rappel de plus, et on en a beaucoup dans la Bible, de ce que Dieu n'a pas besoin des apparences qui vont impressionner les hommes. Sa gloire se manifeste dans des événements auxquels on ne se serait jamais attendu. La naissance à Bethléem, la croix en particulier. Des événements qui ne correspondent pas à nos attentes, mais qui, par lesquels Dieu a changé l'histoire et a changé nos vies. Et donc, ces quelques bergers, on ne connaît même pas leur nom, et bien cette nuit-là, ils ont eu un aperçu de la joie du ciel, de la fête dans le ciel. Et si Dieu leur a permis d'avoir ce petit aperçu, il me semble que c'est pour les inviter, eux aussi, à partager sa joie, à se laisser emporter dans cette explosion d'émerveillement. Et d'ailleurs, la suite du texte nous montrera que c'est ce qui s'est passé, verset 20. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges. Donc les bergers font écho eux-mêmes au chant des anges. Et à la suite des bergers, il me semble que ce texte, ce chant des anges, nous interpelle aujourd'hui encore. Il nous interpelle dans notre vie urbaine saturée. Et il nous pose la question, pour nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous nous émerveillons de Dieu ? De ses projets, de cet événement qui est au cœur de notre foi, ce qu'on appelle l'incarnation, la venue de Dieu dans la condition humaine en la personne de son Fils Jésus. Et est-ce que nous vivons de cette joie qui dépasse les circonstances, cette joie profonde qui est encore là dans nos vies, même quand les circonstances du quotidien sont difficiles? Si la réponse est non, peut-être que notre vision de Dieu n'est simplement pas adéquate. Nous voyons peut-être Dieu, ou nous avons tendance, parfois peut-être, à voir Dieu comme une sorte de référence métaphysique qui intervient de temps en temps lorsque nous faisons face à de grandes questions existentielles. Mais nous réjouir de la présence de Dieu au jour le jour, là, on ne voit peut-être pas trop pourquoi. Ou bien peut-être que nous passons, certains d'entre nous passent par une épreuve très difficile, et que, eh bien, pour être honnête, c'est un peu difficile de s'émerveiller et même de Dieu. Et qui ne comprendrait pas cela? Mais si c'est notre situation, assurons-nous, avec l'aide de nos frères et sœurs, avec l'aide de notre Église, que c'est auprès de Dieu que nous cherchons le secours, et que c'est en lui que nous puisons la paix et l'espérance dont nous avons besoin au quotidien. Or, si nous pouvons espérer dans les ténèbres, c'est précisément parce que, comme l'écrira Jean au début de son évangile, la lumière brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Les anges nous invitent donc, comme les bergers, à nous mettre au diapason de la joie du ciel. Parce que cette joie, elle ne concerne pas que le ciel, elle concerne directement le monde et les hommes. Et c'est ce que montre la suite du chant, une espérance pour la terre. C'est notre deuxième point. Le chant se poursuit, verset 14, « Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Alors cette expression, la paix sur la terre ou la paix dans le monde, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Ça peut peut-être faire sourire un petit peu, paraître naïf. Alors hier soir, semble-t-il, il y avait l'élection de Miss France, je n'ai pas regardé, je vous rassure. Mais dans le monde anglo-saxon en particulier, que je connais un petit peu, il y a une blague classique sur les concours de beauté, qui est que les Miss, lorsqu'on leur demande leur plus grande aspiration, disent toujours « la paix dans le monde, la paix dans le monde ». Et dit comme ça, ça peut avoir l'air d'une platitude par excellence. Mais en réalité, c'est une aspiration très juste, il faut le reconnaître. La paix dans le monde, il n'y a pas plus beau comme aspiration. Donc ce qui fait un peu ricaner peut-être, c'est le sentiment que c'est si loin de la réalité. Et je reviens là-dessus dans quelques instants. Mais on voit en tout cas que c'est précisément ce que chantent les anges. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Deux choses qui sont très proches l'une de l'autre. Paix sur la terre, c'est un petit peu plus large, vision de toute une création apaisée, mais ça implique forcément qu'il y a de la bienveillance entre les êtres humains. Imaginons quelques instants le monde si la bienveillance régnait entre les hommes. Si chacun cherchait constamment de manière active et résolue le bien de l'autre, si chacun se mettait au service de l'autre, si chacun était animé par une profonde bonté, une profonde compassion, un profond désir de voir l'autre prospérer. Si tout le monde agissait ainsi, imaginez combien le monde serait transformé. Imaginez combien les informations, le 20h, n'auraient rien à voir. Imaginez ce que ça changerait dans nos relations familiales, nos relations professionnelles, nos relations amicales, nos relations dans l'Église. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Et la Bible évoque à plusieurs reprises la perspective d'un jour où le monde sera ainsi apaisé, où le monde sera même transformé, profondément renouvelé, ce qu'on appelle la nouvelle création. On en a parlé, c'était le thème de notre week-end d'église. Alors, avant cela, chacun devra rendre des comptes à Dieu, il y a ce que la Bible appelle le jugement. Mais la Bible promet ensuite ce monde transformé et renouvelé où l'autorité de Dieu sera reconnue de façon universelle. Et les prophètes dans l'Ancien Testament en parlent à plusieurs reprises. Par exemple, le prophète Ésaïe, au chapitre 11, nous dit dans un célèbre passage « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. » Et on s'aperçoit, en lisant un tout petit peu plus loin, au verset 9 du même chapitre, que même si l'auteur parle ici des animaux, certainement que dans un monde apaisé, les animaux eux-mêmes seront apaisés, mais plus largement, bien sûr, c'est de l'humanité qu'il parle, verset 9, Ésaïe donc 11, 9. « On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Voilà le jour que nous attendons. Voilà la perspective ultime. Que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Une image poétique, bien sûr, mais qui nous dit un monde entier réconcilié avec Dieu. Or, que nous dit Ésaïe juste quelques lignes auparavant? Eh bien, il nous parle de la venue d'un Messie, d'un Sauveur, que Dieu va envoyer pour inaugurer une nouvelle ère. Maintenant, en lisant cela, on pourrait avoir une réaction un peu cynique, ou en tout cas fataliste, et dire, bah, c'est bien joli, mais cette nouvelle ère, elle se fait quand même attendre. La paix dans le monde, franchement, on l'attend toujours. Et cette objection, elle est compréhensible. Mais elle ne tient pas compte des nombreux indices dans l'Ancien Testament, déjà, qui montrent que ce royaume de paix viendrait d'une manière progressive, inattendue, s'établirait progressivement, donc plutôt que subitement, discrètement même, et serait d'une toute autre nature que les royaumes de ce monde. Un royaume qui se répandrait comme en coulisses, non pas par l'épée, comme les royaumes des hommes, mais comme le laisse déjà entrevoir le prophète Ésaïe, par la puissance d'une parole, d'un message, d'une bonne nouvelle qui change les vies des hommes les unes après les autres. Alors quand les anges chantent d'abord « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts » et puis ensuite « Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes », je crois qu'il faut voir un mouvement, une dynamique qui part de la gloire de Dieu et qui vient changer la réalité sur la terre. Mais comme une opération secrète, comme disait C.S. Lewis, qui s'attaque au fondement même de la détresse du monde, en apportant le pardon, la réconciliation, la restauration. Et on note que quelques décennies après ce chant des anges, Jésus apprendra à ses disciples une prière qui, vers le début, a cette idée très forte: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, nous savons qu'au ciel, ta volonté, elle est pleinement respectée, elle est connue par tous. Personne ne conteste l'autorité de Dieu au ciel. Eh bien, notre aspiration en tant que chrétien, ça doit être que ce jour vienne bientôt où ce sera le cas aussi sur la terre. Nous aspirons à ce que cette réalité pleinement reconnue au ciel, elle soit reconnue sur la terre. Et là, vous me direz peut-être, très bien, mais... Et donc, en attendant ce jour, on ne sait pas quand ça sera, cette paix dont il est question, est-ce que c'est une pure fiction? Et la réponse est non. Voici deux raisons. D'abord, la paix que Dieu offre, ce n'est pas seulement la cessation des conflits armés, ou armés ou non d'ailleurs, mais ce n'est pas seulement la cessation des conflits, ni même une prospérité généralisée, c'est plus que cela. C'est la paix beaucoup plus profonde qui vient de n'avoir plus aucune raison de se battre, parce qu'on sait qu'on a reçu l'essentiel de Dieu en Jésus-Christ. On est aimé pour toujours, pardonné pour toujours, réconcilié pour toujours par un Dieu tout-puissant. Que voulons-nous de plus ? Que cela. Et donc pourquoi nous embourber dans des conflits dérisoires entre les hommes quand nous avons reçu le bien le plus précieux, le plus inimaginable? Je cite des extraits d'Éphésiens 2, 14, 18 où l'apôtre Paul, dans le contexte, évoque les relations entre juifs et non-juifs et il écrit ceci. En effet, il, c'est-à-dire Jésus, est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a voulu les réconcilier l'un à l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur ce texte. Mais ce qu'on va retenir ici, c'est que si le monde continue à se déchirer, eh bien ceux qui ont reçu le pardon et la vie nouvelle qu'offre Jésus-Christ, eux, ne devraient plus rien avoir à faire avec ces conflits. Si nous avons été comblés ensemble par l'amour de Dieu, comment imaginer que nous nous disputions pour des choses tellement moins importantes? C'est un peu comme si deux invités à un banquet royal se disputaient toute la soirée pour une cacahuète. Ça n'a absolument aucun sens. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que cet appel à la paix, exprimé par les anges, nous implique directement. Parce que si le monde ne voit pas la paix dans l'Église, en nous qui avons reconnu en Jésus-Christ notre roi, notre maître, notre sauveur, eh bien il n'y aura aucune raison de croire ce que nous disons à Noël. Il n'aura aucune raison de croire que notre message est vraiment une bonne nouvelle. Quelqu'un écrivait récemment, là où il y a des conflits entre chrétiens, c'est comme si l'Évangile n'était pas vrai dans cette situation-là. L'Évangile est vrai, mais c'est comme si, en raison du comportement des hommes, il n'était pas vrai. Alors les nations se déchirent encore, on le voit bien, chaque jour, mais Dieu se forme un peuple par la proclamation de sa parole, un peuple qui est appelé à vivre déjà aujourd'hui sur la terre, ce qui est déjà acté dans le ciel. C'est à nous, en fait, d'anticiper ce royaume de paix qui nous est promis, et de l'anticiper entre nous, entre frères et sœurs. Et en espérant aussi que ça donne envie, espérons-le, à ceux de l'extérieur, de dire moi aussi je veux connaître cette paix. Et un jour que Dieu choisira, le monde entier, entièrement renouvelé, connaîtra cette réalité. Mais en attendant, ça implique que nous, chrétiens, nous ne supportions pas d'être en conflit les uns avec les autres. Donc si ce soir nous avons un conflit avec un frère ou une sœur, peut-être même ici même, ou ailleurs, eh bien, ce conflit, il faut le régler ce soir, aujourd'hui. Et ça implique aussi que nous vivions dans le monde d'une manière qui reflète cette paix, cette satisfaction trouvée en Dieu, cette assurance de pouvoir tout donner, parce que nous avons tout reçu. L'apôtre Paul, toujours lui, écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 18, « Dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est frappant de voir le réalisme de l'apôtre Paul. Il sait que parfois, l'autre ne fera pas sa part. Mais dans la mesure où cela dépend de nous, soyons en paix avec chacun. On ne peut pas aspirer à la paix dans le monde, ou on ne peut pas se lamenter des conflits, des guerres, etc. dans le monde, si on n'est pas soi-même artisan de paix dans notre contexte, dans notre réalité, en commençant par l'Église, puisque le peuple de Dieu est appelé à montrer Jésus dans un monde qui ne le connaît pas. Et donc, comme je le disais, à anticiper le monde à venir où Jésus est reconnu par tous comme Seigneur. Ainsi, ce chant des anges n'était pas seulement une célébration de la joie du ciel, mais aussi une annonce de la grande mission de réconciliation inaugurée par Jésus. Et si nous avons reconnu en Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur, si nous l'avons confessé par le baptême, eh bien cette mission, c'est la nôtre. Alors recherchons notre joie, notre raison d'espérer chaque jour, ce qui nous motive à avancer dans cette assurance que Dieu n'est pas menacé et que ses projets ne sont pas arrêtés par nos ténèbres. Et soyons des artisans de cette paix au jour le jour, cette paix qui vient d'une profonde assurance que nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes comblés en Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Nous te remercions, notre Père, parce que tu es un Dieu de paix et tu nous as envoyé ton Fils pour qu'il soit le Prince de paix, comme le dit ta parole. Tu nous as envoyé, à la suite de ton Fils, ton Esprit, pour qu'il nous rassemble dans la paix qui vient de toi. Et c'est ce que nous voulons faire. Seigneur, nous savons qu'il y a un décalage entre ce que nous sommes appelés à vivre et ce que nous vivons effectivement. Je sais que c'est mon cas, à moi aussi, Seigneur, moi le premier. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à aspirer profondément à cette paix que tu offres, qui n'est pas cette espèce de sérénité mièvre que nous promet, dont nous parle parfois notre monde, mais qui est la paix de savoir que nous sommes réconciliés avec notre Créateur et que nous avons trouvé la vie véritable en toi. Permets que nous soyons tellement satisfaits par cela, que nous ayons à cœur non pas de nous faire un nom pour nous-mêmes, nous faire connaître, nous rendre visibles ou influents, mais que nous ayons à cœur d'être simplement des serviteurs et des témoins de toi. C'est ce que nous te demandons, au nom de Jésus.